Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les encéphalites auto-immunes et pour aborder leur diagnostic, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Chloé Bost. Docteur Bost, bonjour.
Bonjour.
Docteur Bost, vous êtes immunologiste et biologiste, praticien hospitalier au sein du laboratoire d'immunologie de l'hôpital Purpan du CHU de Toulouse et chercheur INSERM au sein d'Infinity, l'Institut toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires. Alors, pour débuter notre entretien, Dr Bost, quel tableau clinique doit faire suspecter une encéphalite auto-immune ?
Eh bien, pour suspecter une encéphalite auto-immune, ce n'est pas si simple parce que le tableau clinique, en général, est très variable. Il peut commencer par une épilepsie, des troubles comportementaux ou encore un syndrome cérébelleux ou des mouvements anormaux. Et en plus, le tableau clinique est également différent entre la population pédiatrique et la population adulte, pour complexifier encore les choses. Donc, l'âge peut orienter la recherche. Le cancer est associé, puisque certains cas sont paranéoplasiques. Donc, si le cancer est déjà connu avant ou en même temps que les symptômes neurologiques, eh bien, ça peut nous guider un petit peu dans la recherche de ces encéphalites auto-immunes. Mais toujours sans signe d'appel vraiment spécifique. Donc, il est assez difficile de se baser sur la clinique uniquement.
Alors justement, si cette clinique n'est pas très parlante, quels sont les examens qui permettent d'orienter le diagnostic ?
Donc en général, bien sûr, on va aller sur des examens paracliniques qui vont être demandés pour nous aider. Donc en premier lieu, l'IRM. L'IRM a l'avantage de permettre d'exclure certains diagnostics différentiels, mais dans les encéphalites auto-immunes, elle est souvent normale. Donc c'est un petit peu variable selon les auto-anticorps associés, mais dans plus de la moitié des cas, elle va être normale. Et même quand elle est anormale, les lésions qu'on va voir sont variables et ne sont pas spécifiques des encéphalites auto-immunes. Par exemple, même, elles peuvent être communes avec une encéphalite herpétique ou d'autres atteintes comme un petit AVC. Donc, il est parfois difficile de faire la différence quand il y a des lésions. On peut avoir également recours, par exemple, à l'EEG, l'électroencéphalogramme, qui peut montrer des anomalies de tracé dans certains cas, mais là encore, sans que cela soit systématique et aussi toujours rien de spécifique dans la plupart des cas. Il y a seulement un pattern qui est appelé Extreme Delta Brush, qui a été décrit dans les encéphalites anticorps anti-récepteurs NMDA, mais ça ne s'applique pas aux autres encéphalites auto-immunes.
Et donc ensuite, comment aller plus loin pour opérer le diagnostic de confirmation ?
Eh bien là, il est important de s'appuyer sur les critères de diagnostic qui ont été établis donc en 2016 pour les adultes et revus en 2020 pour la population pédiatrique. Et donc en fait, ces critères permettent de distinguer trois catégories de diagnostic, donc les encéphalites auto-immunes définies, et puis les encéphalites auto-immunes possibles ou probables. Et donc, ces différents critères s'appuient donc sur les symptômes cliniques, mais on l'a dit, il y en a qui sont évocateurs, mais rien de spécifique. Le critère de base, on va dire clinique, c'est de trouver une installation aiguë ou subaiguë, donc assez rapide de ces symptômes. C'est parfois difficile parce qu'il y a parfois une errance diagnostique de ces patients qui fait que quand on les voit pour la première fois, eh bien, ils ne sont pas forcément au début de leur maladie, mais essayer de retrouver des arguments pour cette installation rapide. Mais surtout, donc, pour poser le diagnostic vraiment formel d'encéphalite auto-immune, il est nécessaire de retrouver un auto-anticorps, donc un anticorps antineuronal identifié. Donc, comment on fait pour détecter ces anticorps ? Eh bien, en fait, c'est nécessaire d'avoir recours à donc, des échantillons de sang et de liquide céphalo-rachidien. Donc, les recommandations internationales préconisent d'associer un test tissulaire et un test d'identification. Donc, pourquoi ? Eh bien, parce que dans le sang et dans le LCR, on va avoir des anticorps qui sont à présent à des titres un petit peu différents. Donc, le LCR est important à combiner avec le sang. Alors, pas forcément dans un même temps. On peut avoir un petit peu de décalage en termes de temporalité sur ces prélèvements. Mais on vient justement de faire récemment avec toute l'équipe un travail sur les anticorps anti-Caspre-2, donc qui sont un de ces auto-anticorps associés aux encéphalites auto-immunes, où on montre que si on veut avoir une vraie valeur prédictive positive, donc une vraie association, une vraie spécificité de cette détection d'anticorps, il vaut mieux combiner le sang et le LCR. Et donc, la combinaison doit se faire aussi donc, dans l'approche diagnostique au sein des laboratoires d'immunologie où on doit absolument rechercher ces anticorps donc par test tissulaire et par test d'identification. Donc, les tests tissulaires nous permettent d'avoir un large visuel sur les lieux de fixation de l'anticorps sur des coupes de cerveau. Et en parallèle, les tests d'identification nous permettent de confirmer formellement l'auto-anticorps associé. Donc, c'est important d'effectuer ces doubles tests et de s'assurer que le laboratoire fait bien l'ensemble de ces tests pour avoir des résultats spécifiques et en même temps sensibles.
Et à ce stade, quels sont les diagnostics différentiels à écarter ?
Justement, c'est quelque chose qui est un petit peu le sujet d'actualité dans ces maladies, puisque, bien sûr, depuis leur découverte dans les années 2000-2010, il y a eu beaucoup de recherches ou de gros travaux internationaux pour essayer d'améliorer le diagnostic, d'établir des critères, de rendre des comptes sur leur évolution sous traitement, de comprendre la mécanistique. Et on s'aperçoit maintenant qu'en fait, avec cet engouement, on a été aussi parfois trop vite pour certains patients et que les tests biologiques ont acquis en fait un certain pouvoir dans le diagnostic. Il ne faut pas obliger de revenir aussi à la clinique et d'écarter d'autres causes. Donc, les plus fréquentes, c'est les maladies neurodégénératives, mais il peut également avoir des troubles psychiatriques ou encore des déficits cognitifs en lien avec d'autres pathologies chez le patient, par exemple. Donc, c'est ce qui a été récemment montré dans des très grosses cohortes. Donc, important de revenir à la clinique, d'effectuer aussi d'autres tests qui permettent d'écarter ces diagnostics différentiels.
Alors, pour conclure notre entretien, Dr Bost, en cas de forte suspicion, vers qui orienter les patients concernés ?
Alors, si on a une forte suspicion, d'abord, la première chose, donc, c'est les prélèvements donc, à faire donc, selon là où vous exercez vous-même ou à adresser dans un hôpital à proximité. Il est important que ces échantillons sanguins arrivent à être analysés dans des laboratoires dits de référence, hein, sur le parallèle des réseaux de référence au niveau médical. Et bien, la même chose au niveau des laboratoires, important pour avoir des résultats de qualité. Et ensuite, sur le plan clinique, et bien, effectivement, bien sûr, ils devront être orientés au minimum auprès d'un neurologue et, si possible, neurologue spécialisé. Donc, il y a un réseau national qui a récemment été structuré. Donc, il est constitué d'un centre de référence historique qui est situé à Lyon avec le professeur Honora. Il y a depuis peu deux centres de référence constitutifs, un à Toulouse et un à Paris, et des centres de compétences qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, on peut retrouver les informations sur ce réseau national sur le site Orphanet, par exemple, ou sur le site du centre de référence de Lyon. Et on peut solliciter ce réseau, soit pour une prise en charge complète du patient, soit juste pour un avis médical, prise en charge thérapeutique ou sur un avis diagnostique au sein des réunions de concertation pluridisciplinaires qui existent. Donc, une fois par semaine avec le centre de référence historique lyonnais, une fois par mois, par exemple, à Toulouse. Donc, ça permet normalement de pouvoir répondre aux questions des cliniciens qui rencontre ces patients. Ces patients peuvent également être orientés et parfois il y a un besoin auprès d'associations de patients. Donc il y en a à ma connaissance une seule sur le territoire français, c'est l'association ENMDA-R qui regroupe normalement les patients atteints d'encéphalite auto-immune anti-co-anti-récepteur NMDA, mais à mon avis, pour l'instant, c'est la seule qui existe. Et justement, qui travaille en collaboration avec les cliniciens répartis sur le territoire et les patients.
Eh bien, merci infiniment, Dr Bost, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare que sont les encéphalites auto-immunes. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.